J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'une femme qui dessine. Elle dessine des corps emmêlés, enlacés, entrelacés, plus exactement des corps emboîtés. Qu'est-ce qui se joue en elle lorsqu'elle se laisse ainsi aller à dessiner d'un seul trait? Par quoi se laisse-t-elle porter quand elle se laisse ainsi aller à voir, à donner à voir? Ce sont des corps nus, mais nulle pornographie. Elle ne fait que suggérer pour nous laisser imaginer. Et lorsqu'elle se penche sur sa feuille, elle se penche en même temps sur une belle énigme. À quoi ça tient? Le trait qui se met à suggérer. Il en faut parfois si peu, une esquisse, une courbe, on devine à peine, et puis soudain, c'est là, comme une explosion. Soudain, on y est tout à fait. Elle songe au dessin érotique de Rodin. Comment il fait? À quoi ça tient? C'est un simple crayon, c'est une main qui se fait rêveuse, consciente, complice. À quoi ça tient? Est-ce une manière de se concentrer ou de s'abandonner? C'est le mystère même du désir, suggérer mais pas montrer, deviner plutôt que voir. Quelque chose de très simple et de très compliqué. Une phrase d'Aristote lui revient. Quelque chose comme « L'homme est un être intelligent parce qu'il a des mains ». Elle n'est sûre ni de la phrase ni de la comprendre vraiment, mais ça lui plaît. Des mains pour saisir et pour saluer, des mains pour étreindre ou pour caresser, des mains pour dessiner, des mains pour parler, parler avec les mains parce que peut-être les mots ne suffisent pas. Lorsqu'elle se penche sur sa feuille, tout à sa rêverie, elle regarde sa main et se laisse guider. C'est sa main qui sait, c'est sa main qui essaye. Avec le temps, elle a appris à lui faire confiance. Et elle laisse les corps, les visages et les cuisses, elle laisse les sexes et les cheveux se faire jour sous son crayon. Elle les laisse naître et apparaître. À quoi ça tient, l'art de la suggestion? Ne faut-il pas aussi parfois faire plus que suggérer, montrer crûment, exposer frontalement? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir une actrice qui est en ce moment à l'affiche du premier film de Pierre Mazingarbe, La pire mère au monde. Si je vous donne certains des titres de ses précédents films ou séries, Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, Un heureux événement, Je suis un soldat, Hippocrate, cela vous rappellera peut-être de bons souvenirs, mais sans vous dire que cette actrice est également dessinatrice. Elle a illustré en 2023 l'anthologie de la poésie érotique de Marcel Béalu chez Segers et tout récemment, chez Segers encore, un recueil de poésie érotique contemporaine. Louise Bourgoin est avec nous ce matin sous le soleil de Platon et en sa compagnie, nous allons nous demander non pas comment on fait un dessin, mais comment fait un dessin? Comment fait un dessin pour réveiller le désir?
Sous le soleil de Platon... Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Louise Bourgoin.
Bonjour, merci de me recevoir.
On va entrer direct dans le vif du sujet. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe quand vous dessinez?
C'est drôle parce que je me dis depuis assez peu de temps que c'est presque un peu comme une auto-hypnose. Et il m'est arrivé en tant qu'actrice sur les plateaux, par exemple, quand je suis vraiment à fond dans une scène, au moment du coupé, je suis encore dans la scène, j'arrive pas à m'arrêter tout de suite, comme si le vélo était lancé et qu'il mettait un peu de temps à freiner. Dans le dessin, c'est pareil, c'est-à-dire que je suis dans un autre espace-temps. Et d'ailleurs, souvent, j'écoute toujours le même morceau en boucle, donc entre 8h et 18h, ouais. Ce qui doit être un cauchemar pour mes voisins. Et ça me permet de pas me rendre compte du temps qui passe. Et le dessin, ça va m'apaiser, me permettre de me canaliser. Et vous disiez dans cette belle introduction que la main pense avant la tête, finalement, ouais. Dans le dessin. C'est très vrai. Et justement, j'en ai même fait une sorte de méthode, puisque je ne fais pas d'esquisse préparatoire
ouais.
Avant de tracer ma ligne à la plume.
Et en plus, vous faites des dessins, j'ai cru comprendre, d'un seul trait.
Voilà,
sans lever le trait.
Donc oui, y a à la ligne claire.
À la ligne claire, voilà. Ça veut dire qu'il y a, qu'on comprenne, parce qu'on n'est pas tous spécialistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plein, il n'y a rien n'est colorié. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interruption du trait.
Et ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul trait pour dire et pas plusieurs.
Voilà.
Donc c'est un peu une ligne d'état d'âme.
Ouais.
Comme un électrocardiogramme un peu.
Incroyable. Parce qu'il y a un moment où Georges Bataille, on va l'écouter d'ailleurs, nous raconte dans son rapport sur l'érotisme et la mort qu'il y a quelque chose dans la continuité qui justement nous permet de regarder en face la mort. On va l'écouter.
De l'érotisme, il est possible de dire qu'il est l'approbation de la vie jusque dans la mort. Bien que l'activité érotique soit d'abord une exubérance de la vie, l'objet de cette recherche psychologique indépendante du souci de reproduction de la vie n'est pas étranger à la mort. Nous sommes des êtres discontinus, individus mourant isolément dans une aventure intelligible, mais nous avons la nostalgie de la continuité perdue.
Alors, Louise Bourgoin, j'ai entre les mains ces très beaux livres, franchement, aux éditions Segers. Il y en a un qui a 2 ans et l'autre qui vient de sortir. La poésie érotique et la poésie érotique aujourd'hui. Et dans l'extrait qu'on vient d'écouter, Georges Bataille dit qu'on a la nostalgie de la continuité. Mm-hmm. Or, juste avant, vous nous racontiez que vous dessinez d'un seul trait.
Il est très juste votre extrait parce que je trouve que quand on est très amoureux, qu'on a envie de posséder l'autre dans un rapport charnel, on est empêché. Malgré une extase, une jouissance, on n'a pas complètement l'autre, évidemment. Ouais. Et donc, c'est ce que j'essaye de traduire avec mes dessins, c'est-à-dire qu'il y a un enchevêtrement, comme un Rubik's Cube un peu, mais qui est impossible et qui est arrêté, alors parfois par d'autres personnes ou parfois tout simplement par la fin du trait.
Ah, excellent, alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que vos dessins, moi je les trouve très beaux, mais il y a effectivement un truc bizarre sur l'emboîtement. C'est-à-dire, c'est le mot qui m'est venu le plus, c'est moins joli qu'enlacé, qu'entremêlé, mais il y a un truc d'emboîtement des corps. Vous travaillez vachement cette notion, comme si finalement, malgré l'excitation ou le désir, ou malgré l'être ensemble, au fond, on allait rester quand même malgré tout un peu séparés.
Exactement, et d'ailleurs ça peut s'appliquer psychologiquement au rapport de couple, puisqu'on connaît jamais complètement l'autre. Et puis, ce que j'aime bien, c'est essayer aussi de faire deviner aux gens combien il y a de personnes, ce qui se passe exactement, et donc perdre le regard à travers la composition, mais aussi la suggestion de quelque chose qu'on n'aurait pas vu tout de suite.
Ouais, c'est vrai que parfois, on se demande s'il y a une personne, deux ou plus.
Oui, c'est ça.
Et il y a quelque chose de très intéressant dans cet emboîtement.
Mais c'est aussi parfois pour dire que c'est la même personne, mais à plusieurs moments aussi. Comme une cinématique.
Ouais. Alors, Louise Bourgoin, on vous connaît bien sûr comme actrice, surtout. On se souvient qu'il y a très longtemps de votre explosion comme Miss Météo sur Canal. Mais avant, vous avez fait les Beaux-Arts à Rennes, je crois. Mm-hmm. Et aussi, vous êtes d'une famille d'artistes. Je crois que vous avez dans vos grands-parents.
Oui, mon arrière-grand-père.
Ouais. Voilà. Et puis, je crois que votre père aussi, qui était prof de philo, il dessinait aussi.
Oui, beaucoup.
Du coup, racontez-nous un peu ce que vous retrouvez de votre histoire en étant dessinatrice. À quoi vous êtes fidèle, finalement, par-delà votre premier métier qu'on connaît ?
Bah, la ligne claire, parce que je me souviens que c'est mon père qui m'a appris à dessiner. Moi, j'ai grandi seule avec ma mère, un peu comme dans le film, d'ailleurs, La pire mère au monde. Mais je voyais mon père ponctuellement, et il m'a appris à dessiner d'un seul trait. Il m'expliquait que c'était la technique la plus difficile, mais c'était ce qu'il trouvait beau. Et je me souviens qu'il admirait Manara, Guido Crépax, des artistes qui travaillent de cette façon. Et c'est extrêmement difficile, mais à la fois, c'est très satisfaisant aussi de suivre un seul chemin. Ça canalise, je ne sais pas comment expliquer. Et lui, il dessinait beaucoup de chevaliers, de guerres. Voilà, moi, j'étais plutôt centrée sur les corps féminins. Et j'ai toujours trouvé que le vêtement, ça polluait un peu mais les compositions, puis ça datait aussi mes dessins. Ça raconte une époque, un vêtement. Donc j'ai assez vite commencé à dessiner des gens dénudés. Et je me souviens aussi qu'enfant, je dessinais pour qu'il se passe les choses que je dessinais. Donc c'était un peu votif, il y avait un peu de magie là-dedans.
D'ailleurs, c'est une des interprétations, mais c'est pas la seule, des premiers dessins sur les grottes rupestres de Lascaux notamment, mais pas seulement, c'est l'idée de faire venir, d'avoir un pouvoir magique, de faire advenir ce qu'on dessine. Votre père, donc, qui était prof de philo, mais donc qui dessinait aussi, il vous a parlé de philo aussi ?
Oui. Alors, je le voyais pas souvent, mais il m'a parlé de philo, c'est drôle, il me conseillait des livres comme on conseille des médicaments, et il y a des phrases qui me sont restées. Et j'écoute toujours avec attention vos podcasts, parce que ça me rappelle un peu mon père, et je les trouve en revanche plus claires que les explications de mon père.
Et un exemple d'une phrase qui vous a...
Ah, mais je me souviens que quand j'ai commencé à avoir des amoureux à l'adolescence, ils me disaient... L'amour est un leurre de la nature pour perpétuer l'espèce.
Chopin
voilà. C'était assez drôle.
Pas facile d'avoir un père qui dit ça.
Non.
Alors, vous venez de dire, Louise Bourgoin, que vous aviez très vite dessiné des corps dénudés, et surtout de femmes. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre, parce que dans ces deux recueils de poésie érotique, c'est à la fois hétéro et homo.
Ouais.
Mais vous dessinez surtout des femmes. Et il faut quand même le dire, il y a un grand absent, c'est le phallus. Je crois qu'on ne le voit pas une seule fois.
Ouais.
Je sais pas quoi dire.
Bah, il est occupé, quoi. Il est toujours rentré, en fait. On ne voit pas. Non, j'essaye quand même de pas trop expliciter les choses, de suggérer, de laisser celui qui regarde imaginer aussi. Donc, je le laisse raconter des choses.
Je vous dis ce que j'avais en tête. C'est un peu comme si le phallus était nécessairement pornographique, à la différence du sexe féminin. Ce qui serait bizarre.
Alors, il y a des phallus hein, dans le livre. Il y en a. Okay, ouais. Il y en a qui sont noués aussi. Il y a des nœuds à l'intérieur, mais que dire ? Il y a d'abord Segers qui n'a pas pris tous les dessins,
ah oui,
et qui a effectivement peut-être pas pris ceux qui étaient trop explicites.
Ouais.
Mais j'ai toujours trouvé aussi que, par exemple, l'explication de texte d'une prof de français, c'était la chose qui donnait le moins envie de lire un texte, et j'aime pas trop l'aspect gynécologique des choses dans l'érotisme. Voilà, c'est pour ça.
D'ailleurs, c'est aussi dans une époque où la pornographie déferle, on a un peu l'impression qu'il y a quelque chose de militant, qui est de dire, voilà, l'érotisme, c'est peut-être l'antidote, peut-être le contrepoison.
Et aussi, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de femmes, l'érotisme. Il y a Marion Fayol, que j'aime énormément, mais il y a beaucoup d'humour dans ses dessins, mais l'érotisme sans humour, sérieux, il n'y en a pas beaucoup des femmes qui s'y attellent. Donc, si on peut parler de militantisme, c'est là, c'est peut-être un endroit qu'il faut déployer en tant que femme.
Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau livre, La poésie érotique aujourd'hui, donc chez Segers. J'ai choisi deux poèmes.
Ouais.
Vous voulez le lire ou alors je le fais si vous n'avez pas envie.
Non, je vais le faire.
Ouais, alors, j'ai choisi Jean-Claude Pirotte ou alors Thomas Vineau, vous choisissez.
Thomas Vineau.
Ok, c'est très beau. Et d'ailleurs,
j'aime beaucoup Guillaume Marie aussi, et Florian Bardou, Zoé Besmond-Sonneville. Enfin, il y a plein d'artistes que j'ai découverts, que je ne connaissais pas, et j'ai une grande fascination pour Griselidis Réal.
Et je dis au passage, avant de vous écouter lire, Louise Bourgoin, que Thomas Vineau a écrit un petit chef-d'œuvre qui s'appelle 76 clochards célestes, et là, on écoute un poème de Thomas Vineau, que vous avez, alors non pas illustré, parce que ce n'est pas ça le principe du livre, vous n'illustrez pas les poèmes, mais vous les accompagnez par des dessins qui les font résonner. On vous écoute, Louise Bourgoin.
Plus ta bouche s'ouvre et plus je ferme la mienne. Je tiens serrée la pointe de ma langue au bord du velouté humide de tes mouvements. Tu parles en souffle de mots inconnus que je comprends, que je mâche, que je fais tourner entre mes dents et que je crache au fin fond de ta poitrine. Plus tu fermes les yeux et plus je les ouvre. Je veux voir ce qui coule par ta respiration, tes lèvres qui s'ouvrent, je veux voir ce qui se plisse au bord de tes yeux, ce qui se déploie dans ton ventre, je veux voir la ruade de ta peau. Je veux sentir par les yeux, je veux lécher par les yeux, je veux hurler par les yeux, je veux tenir ton regard dans le mien et sauter. Plus tes gestes s'étendent et plus les miens retiennent, je pourrais avoir 10 langues. Et un seul doigt, tu pourras avoir 1000 bouches et un seul sein. Nos muscles sont des mains, notre fatigue dense. Nous pourrions fonder un paysage, inventer doucement l'orage, tisser la foudre à notre taille, nous pourrions presque nous connaître.
C'est beau, hein ? Merci beaucoup, Louise Bourgoin. C'était Thomas Vineau, lu par vous, Louise Bourgoin. Et c'est un extrait de ce recueil de poésie érotique contemporaine chez Segers. Mm-hmm. Et c'est ça que vous, non pas illustré, mais vous accompagnez par des dessins. En préparant l'émission, je tombais sur cette très belle phrase de Matisse. « Il faut toujours rechercher le désir de la ligne, le point où elle veut entrer ou mourir. »
C'est très beau, je n'ai pas grand chose à dire de plus. C'est une grande référence, Matisse, les dessins de Cocteau aussi, mais aussi de Picabia. J'aime énormément ces artistes, j'ai même acheté des dessins de Jean Cocteau.
Ouais.
Et c'est... En fait, si j'achète des dessins plus que des peintures, c'est parce qu'il y a ce premier geste qui, s'il est les préparatoires à un tableau, va se perdre un peu dans quelque chose qui est refait. Et j'aime beaucoup la première prise au cinéma, mais j'aime aussi beaucoup le premier geste, en fait. Là. Donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, savoir que la main pense avant la tête. Et du coup, il y a quelque chose un peu... qui dit quelque chose qu'on va comprendre après.
Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis fasciné par les dessins préparatoires, les esquisses. Et il y a Jean-Luc Nancy, je me souviens, qui disait que l'esquisse est comme une première pensée de l'œuvre en devenir.
C'est exactement ça.
Mais par contre, la différence avec le cinéma, c'est qu'en général, ces premières prises, on les voit pas, on les garde pas, elles sont moins sacralisées.
Moi, je suis scandalisée qu'on filme pas la première répétition. Je trouve qu'il se passe toujours des choses qu'on n'arrive pas à recréer après au cinéma, mais comme la technique n'est pas prête et qu'il y a un boîtier de micro qui peut dépasser, une perche qui est mal placée, etc., on la garde pas, cette prise, mais c'est très dommage.
Et finalement, il y a aussi ce surgissement au début. Et quand est-ce que c'est quand même, vraiment, vous l'avez dit, c'est magique. Il y a un moment où il n'y a rien, et puis après, soudain, il y a un truc qui est né, qui surgit, qui apparaît. C'est pour ça d'ailleurs que tous les philosophes phénoménologues, c'est ceux qui s'intéressent à comment les choses apparaissent, ils sont fascinés par les dessins préparatoires. On voit des études hallucinantes sur une épaule faite par Raphaël, David, un pied, une cheville. C'est vraiment fou ce moment où ça apparaît quand même.
Mm-hmm. Et après, si on essaye de mieux faire, on redit, on a digéré quelque chose, on a pensé, analysé, et il n'y a plus cette chose qui nous... qu'on a dite sans savoir et qui parle pour nous, en fait.
Voilà. Et on entend d'ailleurs ce que vous disiez au début de l'émission, que je n'avais pas relevé parce que j'étais pris au dépourvu, mais c'est une très belle idée, l'idée de l'auto-hypnose, en fait.
Oui.
L'idée que finalement, on rentre en soi et on s'auto-hypnose et on est dans une étrange présence, quoi.
Exactement. C'est très difficile à expliquer, mais je la ressens au cinéma et en dessinant.
Et ben on va parler bientôt de votre film, qui est sorti il y a quelques jours, mais avant ça, on va écouter quelqu'un qui s'y connaissait assez bien en auto-hypnose, Lauride. C'était Lou Reed, Vicious.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Louise Bourgoin, Sous le soleil de Platon, et nous parlons de dessin. Alors, on va aussi parler du film, bien sûr, évidemment, bientôt, mais d'abord, c'était passionnant de vous entendre parler comme ça, d'auto-hypnose, d'esquisse, et aussi de ce moment où la pensée surgit. Et on est très nombreux, en fait, à être fascinés par les dessins préparatoires, les esquisses, et par ce moment de surgissement, et ce moment où, quelque part, c'est la main qui se met à penser. Il y a un acte de présence, quelque chose qui devient phénomène. Et parfois, on a envie de s'arrêter là, d'ailleurs. Et c'est très précieux, parce que, quelque part, tout est déjà là. Matisse disait, d'ailleurs, le dessin au trait est la traduction la plus pure de l'émotion.
Bah, en fait, tout ce que vous racontez, c'est presque comme un acte manqué. C'est quand il y a quelque chose comme ça qui nous échappe, qu'on n'a pas encore analysé, un premier surgissement, c'est ce qui se traduit dans les actes manqués, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nous, d'inconscient, qui parle sans qu'on ait pu l'analyser. Donc ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes.
Ouais.
Et d'ailleurs, quand on est acteur et qu'on est filmé, évidemment qu'on ne se connaît pas à 100% et qu'on on se dévoile par rapport à tout ce qu'on nous demande de jouer, par rapport au décor, aux gens qu'on a en face de nous, et on nous vole, entre guillemets. Donc quand on se voit au cinéma, on se dit « Ah, je pensais pas que j'avais joué ça comme ça, je pensais pas que je dégageais ça ». Et donc il y a des choses qui nous échappent, qu'on ne comprend pas et qui sont traduites au cinéma.
Vous faites souvent ce parallèle entre le métier d'actrice et celui de dessinatrice. Justement, venons-en au film. Donc le film est sorti il y a quelques jours, c'est le premier film de Pierre Mazingarbe. Il s'appelle « La pire mère au monde ». Cette mère est jouée par Muriel Robin. Vous êtes sa fille et vous êtes une arriviste, une carriériste, une femme puissante. Et d'ailleurs, il y a un truc marrant au début du film qu'on voit rarement. C'est une femme qui la ramène, qui est arrogante, qui est ambitieuse, qui a réussi et qui est présentée comme on voit souvent des hommes se présenter au début de films américains. Voilà, je suis le meilleur, j'ai fait ça, je veux conquérir ça.
Un peu le loup de Scorsese.
Ouais, exactement. Et donc déjà, ça c'est intéressant. J'ai trouvé ça très féministe, quelque part. J'étais très surpris. Et en plus, vous n'êtes pas sympathique.
Ouais.
Et ça m'a fait penser au critère d'Iris Bray, que j'ai d'ailleurs reçu à ce micro. Le critère de Bechdel, c'est-à-dire que dans un film, combien il y a de passages où on voit des femmes qui parlent de leur sujet, de leur vision, et qui ne parlent pas d'hommes. Mm-hmm. Et là, c'est le cas des deux personnages principaux.
Ouais, c'est vrai.
Donc vous, qui êtes la fille, qui êtes avocate, et votre mère, qui est en fait greffière, et vous avez une petite vexation d'ego, vous êtes mutée, je ne sais plus où, dans une région, et vous allez vous retrouver à bosser avec votre mère.
Voilà. Ma mère qui m'a élevée seule, elle m'a laissé idéaliser mon père et elle a tout fait pour que je réussisse, mais au prix de pas avoir de vie, de famille. Je suis une femme extrêmement ambitieuse, donc c'est une femme qu'on n'attend pas. Parce que effectivement, elle a un peu, c'est un peu tous les clichés souvent qu'on porte au personnage masculin.
Ouais.
Et puis Muriel, elle est hilarante parce que elle joue cette mère qui est très sévère, mais finalement pour le bien de sa fille. Puis ce qui est assez drôle, c'est qu'on se reproche à chacune des choses qu'on est fondamentalement. Ça, c'est vraiment.
C'est l'histoire de deux femmes, on pourrait dire viriles, la mère et la fille. Alors je peux pas raconter ce qui va se passer parce que c'est très très désopilant et puis on peut pas expliquer dans quelle affaire de un peu de deal sordide quoi. Vous allez vous retrouver.
Ouais.
Je peux juste dire qu'il y a de la violence, des chiens et quelque chose de à quoi on s'attend pas du tout. Donc le film est très surprenant. Mais en revanche, comment vous avez accepté? Parce qu'en fait, vous avez fait plein d'énormes trucs. Là, vous donnez sa chance à un premier film d'un inconnu qui avait fait juste quelques courts-métrages. Qu'est-ce qui vous a décidé?
D'abord, son univers. En fait, je l'ai rencontré sur un tournage. Je l'ai vu dessiner. Il était acteur sur un film avec moi. Il avait un petit rôle.
Vous l'avez vu dessiner?
Je l'ai vu dessiner. On a parlé de dessin. Et je me suis dit, c'est hyper intéressant, il avait commencé à dessiner tout ce qui se passait sur le plateau, etc. Et 3 mois après, il m'a proposé son film, donc ça venait pas d'un inconnu, j'avais déjà parlé avec lui. Et j'ai adoré son parcours, le fait qu'il fasse les arts déco, les gobelins, enfin, les beaux-arts, il a un univers visuel extrêmement fort. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai trouvé que c'était drôle, un peu à la Dupontel, avec un mélange comme ça d'enquête policière, de thriller, mais aussi une trame très sensible dans ce rapport mère-fille, qui m'a rappelé d'ailleurs beaucoup le rapport que j'avais avec ma propre mère. Et l'idée de jouer avec Muriel Robin, c'était un peu un rêve, parce que c'est quand même quelqu'un que j'admire énormément. C'est une des pionnières dans l'humour. Donc c'était très impressionnant pour moi de jouer face à elle.
Intéressant quand même de revenir sur le rapport entre le dessin et le cinéma, parce que finalement, ce que vous nous dites, je ne m'y attendais pas du tout, c'est que vous avez été convaincue de faire ce film en regardant le storyboarding.
Oui, parce qu'il a un point de vue, et ça c'est assez rare. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui filment comme ça, avec une grille dans la tête de plan américain, plan serré, puis travelling, etc. Enfin, ils ont quelque chose un peu de formaté dans la tête, et lui, il a proposé à travers un storyboard génial, des plans très beaux, et ce qu'on n'attend pas vraiment d'une comédie, souvent.
C'est vrai,
La beauté des plans, la lumière, etc., c'est plutôt pour les films d'auteur, en fait, ou pour les films sérieux, les drames.
Non, mais c'est vrai que si Baudelaire a raison de dire que le beau est toujours bizarre, c'est un film bizarre. Il est entre plusieurs genres, et puis surtout, on ne s'attend pas à ce qui se passe.
Il y a plein d'inventions visuelles, il tente des choses, quoi. Il y a plein d'inventions d'un point de vue filmique, des plans à 360, des trucs un peu fous.
Et vous dessinez entre les prises?
Quand je suis très en confiance, oui. Et en fait, c'est étrange d'être regardé toute la journée, et donc parfois, j'ai envie de dire, moi aussi je te vois. Donc, ouais. Il peut m'arriver de dessiner le plateau, dessiner des trucs qui m'ont marqué pendant la journée de tournage, des blagues, des trucs amusants, voilà, pour les soumettre au metteur en scène et dire certainement, consciemment ou inconsciemment, moi aussi je te regarde.
Mais d'ailleurs, c'est aussi tout le sujet de notre émission. Parce que finalement, vous êtes actrice, vous êtes tout le temps vue, et là, vous montrez que vous voyez. Quand vous dessinez, vous montrez que vous voyez, finalement.
Oui, mais je ne dessine pas d'après nature, ce sont que des dessins d'imagination.
Ouais, tout à fait, il n'y a pas de modèle.
Donc ce que j'aime, c'est que c'est de dessin de ce qui m'est resté, de ce que j'ai vu.
Presque de l'impression subjective. Alors, autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est l'ambition. Parce que vous jouez souvent au cinéma des femmes avec un fort caractère. Mm-hmm. Et là, c'est même plus précisément une ambitieuse, en plus dans le monde de la justice, avocate, avec tous les clichés. Bon, déjà, ça fait du bien de voir une femme comme ça au cinéma. Mais on a l'impression quand même que, quelque part, ça vous parle, que vous êtes un peu comme ça. Qu'il y a chez vous une ambition au sens premier, quoi, qui est noble, une envie d'y aller, quoi.
Mais c'est pas la même chose. En tout cas, j'ai l'ambition de ne pas faire qu'une seule chose, de ne pas être dans une seule famille de cinéma, de faire des films d'auteur, mais aussi des comédies, de ne pas rester enfermé dans un certain cercle. Et l'ambition de tout mélanger, c'est-à-dire de dessiner, aussi de réaliser, de jouer. Je trouve que les choses sont très perméables et sont très liées. Et on a encore trop tendance à mettre les gens dans des catégories aujourd'hui, en France, beaucoup plus en France qu'aux États-Unis par exemple. Et je me souviens que le premier rôle qu'on m'a donné, La fille de Monaco, c'était déjà une ambitieuse, à tel point qu'elle se fait tuer quand même dans le film, à cause de son ambition. Parce qu'elle fait trop de bruit, elle est trop voyante, elle est gênante.
Ouais.
Ça, c'est...
C'est marrant.
C'est marrant. Mais en tout cas, en vieillissant, on me donne de plus en plus de rôles d'autorité aussi. De médecin, d'avocate, de procureur.
Ouais, bien sûr, comme dans Hippocrate.
Ouais. Donc, je sais pas si c'est parce que je suis grande en taille, je sais pas, ou si c'est... Je sais pas d'où ça vient, mais ça me plaît.
Ouais, mais ça vous correspond quand même.
Ouais.
Mais je vais pas spoiler le film, mais là aussi, je peux juste dire un truc, c'est qu'il y a... Dans le rapport au fait d'être peut-être assassiné ou peut-être pas, voilà, il y a un truc central dans ce film-là, sur cette violence-là. Donc c'est pas la première fois. Donc à chaque fois, c'est comme si ça vous rattrapait, quoi. On vous met dans une situation de femme à fort caractère, et donc quelque part, cette ambition dérange.
Et toujours, que ce soit Adèle Blanc-Sec ou dans Hippocrate, toujours cette femme aussi qui a pas d'enfant, pas de mec, et qui est dédiée au travail, et qui est assez solitaire finalement. C'est amusant.
Ah oui, après je me souviens d'un très joli film de Rémi Besançon, Un heureux événement, adapté du livre de Eliette Abécassis.
Oui.
Où là c'était une autre figure
c'est
vous.
C'est vrai.
D'ailleurs, vous avez des enfants en vrai. Vous dessinez avec eux ?
Beaucoup. Ils m'apprennent énormément. Beaucoup plus que je ne leur apprends d'ailleurs des choses parce que. Il y a quelque chose de votif dans leur dessin, c'est-à-dire que d'abord, un enfant, il ne fait pas de brouillon, et puis quand il fait une guerre, c'est la guerre, quoi. C'est hyper violent, brutal, peu importe si c'est bien fait ou mal fait, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pervertis par ce désir d'académisme ou des cours de dessin. Il y a quelque chose d'extrêmement instinctif et brutal qui m'inspire beaucoup.
Ouais. Je vous ai préparé, Louise Bourgoin, une phrase de Jean-Luc Nancy qui parle du dessin, mais c'est aussi intéressant pour parler du film, parce que c'est aussi une façon d'inviter les gens à voir ce film. C'est un film qui ne veut pas spécialement plaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des films qui veulent plaire, qui veulent être confortables. Lui, il n'est pas très confortable. Il y a des choses un peu dures à regarder. Et puis cette mère, au début, elle fait vraiment peur. Il y a quelque chose...
Bah, elle n'a pas peur de jouer une femme dure. En
tout à fait.
On ne joue pas ce qu'on attend du féminin, effectivement.
Exactement. Et donc, ça surprend. Et quelque part, écoutez ce que dit Jean-Luc Nancy. D'une manière ou d'une autre, il n'est pas d'art qui ne doive plaire. Le plaisir ne se réduit ni à l'agréable, ni à la jouissance. Il n'est pas de l'ordre du contentement, mais de la tension maintenue. Ça, c'est intéressant pour un film aussi, que la tension soit maintenue. Il est plaisir de désirer, désir de la forme qui se cherche, désir de l'œuvre qui s'expose, montrer les gestes du dessin pour faire sentir en eux les élans de ce plaisir du corps dessinant, montrer aussi quelle forme, image, emblème du plaisir s'offre à ces tracés qui se cherchent. Ça, c'était dans la préface d'un catalogue pour le Musée des Beaux-Arts de Lyon en 2008.
Mmh. C'est drôle, ça me rappelle ce que me disaient mes profs au Beaux-Arts. Ils me disaient, oui, l'art, ça doit être dérangeant, ça doit pas être plaisant. Notamment, ils m'avaient fait découvrir les œuvres du photographe Witkins, donc qui photographiait des gens qui étaient amputés, etc., mais nus. Alors, il y avait une sorte d'érotisme très troublant. Et ça m'est resté, je me souviens que...
Parce que finalement, cette notion de tension maintenue, elle est au cœur et du cinéma, et même du dessin, finalement, et de toute créativité.
Oui. De tension maintenue, mais c'est-à-dire que vous, comment vous l'interprétez ?
Ah, je vais essayer de faire le commentaire de Jean-Luc Nancy. Mais à mon avis, ce qu'il veut dire, c'est que, en fait, si on voulait juste plaire, bah, ce serait trop confortable. Si on voulait juste déplaire, ce serait de la provocation. Et bah, c'est un peu entre les deux.
Oui,
on veut
comprends.
Plaire en déplaisant, en maintenant une sorte d'intranquillité, une tension. Et moi, quand je vois vos dessins, il y a de ça quand même. On est là, il y a quelque chose qui nous maintient en éveil, et puis boum, ça s'arrête. Et bien le film, c'est un peu pareil. En tout cas, c'est un film un peu... Il n'est pas très facile à regarder, vous voyez. Vous êtes les deux un peu, je sais pas, antipathiques, on pourrait presque dire, quoi. Et donc, c'est étonnant de commencer un film comme ça, avec deux figures.
Voilà, c'est intéressant de jouer
pris,
des personnages qui ne sont pas sympathiques, qui n'ont pas, des caractères très reluisants.
Mais évidemment...
C'est jubilatoire à voir dans une comédie aussi, parce qu'on a tous les défauts qu'elle présente, à plus ou moins... grande échelle, mais on se reconnaît tous dans les défauts qu'elles ont. Le rapport Murphy est très bien traduit, je trouve.
Louise Bourgoin, on va maintenant parler plus globalement de créativité. Voilà, vous avez dit que vous vouliez réaliser, vous ne l'avez pas encore fait. Peut-être d'ailleurs que quand vous dessinez, vous réalisez déjà un peu.
Oui, parce qu'il y a une forme de mise en scène, c'est vrai. J'ai illustré aussi un livre pour enfants qui sortira l'année prochaine chez Robert Laffont, où là, il y avait des décors, des pièces, etc., des angles à trouver, c'est une forme de réalisation. J'ai quand même réalisé un premier court-métrage que je viens de terminer là, qui sera présenté l'année prochaine. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, évidemment, l'image, et c'est drôle, c'est très lacanien, j'ai envie de réaliser. C'est la fin d'une analyse. J'ai fini mon analyse d'ailleurs.
Et
j'écoute beaucoup. Ouais, j'écoute beaucoup vos podcasts et il y a une phrase de Lacan que vous répétez souvent. C'est je suis un désir qu'il ne faut pas trahir.
Ouais,
elle est dangereuse cette phrase.
Très dangereuse.
Très dangereuse.
C'est la fin du séminaire qui s'appelle l'éthique de la psychanalyse et qui est en fait un commentaire d'Aristote. Et d'ailleurs, c'est Lacan. Franchement, il est vraiment parfois génial et parfois il est complètement charlatan. Mais là, c'est Lacan génial. C'était avant qui, en vérité, c'était avant qu'Ivry, je pense. Et là, est la fin de ce séminaire sublime. Il dit voilà, je peux vous dire en tant qu'analyste, après avoir vu tant de gens sur le divan, c'est que la seule chose qui fait qu'on va mal, quoi. C'est quand on a cédé sur son désir. Quand on a... Mais après, la question, c'est... Comme c'est un désir inconscient, on ne sait pas clairement ce qu'on a trahi. Mais ça va se manifester dans des symptômes. Et là, il va falloir déchiffrer ces symptômes pour se demander ce qu'on a trahi, quoi.
Qu'on déchiffre jamais complètement.
Ouais, mais par contre, on le sent quand on se rapproche de cette fidélité. Et d'ailleurs, ça nous... ramène un peu au début de l'émission, parce que vous disiez, voilà, moi j'ai commencé par les Beaux-Arts, mon père dessinait en plus d'être prof de philo, j'avais dans ma famille un arrière-grand-père, c'est ça, qui était dessinateur et peintre. Donc il y a bien dans votre chemin quelque chose comme cette fidélité que vous cherchez.
Oui, très juste. En tout cas, c'est pas rien d'avoir grandi enfant avec des tableaux comme ceux de mon arrière-grand-père au mur. C'est quelque chose.
Quel genre ?
On a complètement déifié cet ancêtre.
Ah oui.
C'était en anglais et c'était très académique, mais peint avec une maîtrise absolument incroyable. Il est mort très jeune, il est mort à 44 ans. Et donc, il n'est pas entré dans la postérité, mais...
Comment il s'appelle ?
Guy Wilsiou. Guy Wilsiou, il y a un Wikipédia, vous pourrez voir. Il est né en 1876 et il est mort en 1920.
Donc on imagine que ça a été, vous avez dû mettre du temps à franchir le pas.
Mais j'ai jamais peint, je ne peindrai jamais, j'essaierai jamais la peinture à l'huile parce que le niveau est trop haut, ça me semblait impossible à atteindre. Mais en revanche, je dessine un peu comme mon père, avec un seul trait. Et c'est très étonnant d'ailleurs parce que je voyais peu mon père, donc c'était vraiment une manière de se retrouver le dessin. Et je me souviens que quand j'étais ado, ça lui faisait très plaisir, il gardait des boîtes de cigares vierges en bois. Et puis moi, je dessinais il adorait les pin-ups de Gilles Elfgreen, il trouvait que c'était le meilleur peintre de pin-up. Et donc je les reproduisais sur des boîtes à cigares pour lui faire plaisir. C'est très, très étonnant.
Et bien on devine qu'il y a dans ces deux volumes que j'ai entre les mains, poésie érotique d'aujourd'hui et poésie érotique tout court chez Steggers, quelque chose comme une fidélité à votre père. On va aller maintenant écouter Vanessa Paradis, Les épines du cœur, et après on va développer plus encore votre philosophie de la créativité. Vanessa Paradis, Les épines du cœur.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Louise Bourgoin sur France Inter. C'est passionnant, on vous découvre sous un autre visage, enfin, en tout cas pour moi. On essaye de comprendre cette cohérence dans tout votre chemin. Et au fond, c'est la ligne qui continue, c'est la créativité. Je voudrais qu'on parle maintenant plus généralement de cette créativité. Il y a deux façons de la penser. Beaucoup de théoriciens de la créativité pensent qu'au fond, il n'y a jamais rien de vraiment nouveau. On ne fait que réagencer du connu, de manière nouvelle, mais on réagence du connu. Soit quand même, parfois, il y a un jaillissement de nouveauté. Comment vous voyez ça, vous? Et peut-être, dans les figures qui vous ont beaucoup inspiré, je ne sais pas, vous parlez de Matisse, est-ce que vous pensez que, voilà, il y a des créateurs qui quand même produisent de la nouveauté, ou est-ce que ce n'est pas toujours un peu la même chose qui revient?
Il n'y a de nouveau que ce qui est oublié. Je pense qu'on a produit il y a très longtemps des choses qui existent aujourd'hui, mais qu'on n'avait pas relevées à l'époque parce que c'était pas à la mode. Ouais. C'était pas. Enfin, je sais pas, quand on regarde des œuvres cycladiques d'il y a 40 000 ans, on se rend bien compte que ça ressemble à du Brancusi.
Enfin, bah oui, je veux dire,
il y a énormément de choses qui ont déjà été faites, qu'on a oubliées, qu'on refait. Et puis, on est tous des humains, on a une humanité commune. Donc, je suis pas persuadée qu'on puisse tout d'un coup sortir quelque chose d'un peu extraterrestre. En revanche, vous parliez de la fidélité à mon père tout à l'heure, ouais. Mais je me souviens qu'il me disait souvent cette phrase de Nietzsche, il n'y a que l'art pour nous protéger de la vérité, ouais. Et je crois que c'est extrêmement réconfortant et rassurant en tant qu'artiste de pouvoir dire ce qu'on ne peut pas dire avec les mots. C'est un autre langage et qui s'adresse à l'autre sans les mots, et donc on le reçoit sans pouvoir expliquer parfois cette émotion esthétique qu'on peut recevoir. Moi, il m'est arrivé de pleurer dans des musées face à des œuvres, et je me souviens qu'une fois, quand ça m'est arrivé, j'ai pleuré devant La Joie de vivre de Vincent Van Gogh, et c'était au Met, et il y a quelqu'un qui est passé et qui m'a dit, moi aussi ça m'a fait ça, et c'était hyper, hyper touchant.
Ah ouais. C'est sûr que La Joie de vivre...
Je n'ai pas vraiment répondu à la question.
Non, mais c'est, si, tout à fait. Ça, beaucoup de choses reviennent tout le temps. Mais dans les grands... Dans ce que vous admirez, vous mettez qui tout en haut, par exemple? Je vois, comme peintre, dessinateur...
Plein. D'abord, j'admire beaucoup de figuratifs au XXe siècle parce que c'était pas vraiment la mode. Moi, quand j'étais aux Beaux-Arts, entre 99 et 2004, je me souviens que je suis rentrée avec mes dessins et finalement, pendant toutes mes études aux Beaux-Arts, on m'a expliqué que il fallait surtout pas peindre, quoi, que c'était bourgeois, que tout avait été dit après Malevitch, que finalement, il fallait faire des happenings, des performances, des... des vidéos, donc c'est ce que j'ai fait pour avoir mes années de façon très scolaire, mais j'admire les gens qui ont désobéi, oui. qui ont très bien compris qu'on était dans une mode à l'époque et qu'on allait en sortir, et aujourd'hui il y a un grand retour du figuratif, bien sûr, par exemple, et à l'époque, moi j'avais l'impression que c'était terminé, quoi, qu'il n'y en aurait plus jamais. C'est drôle, comme quand on est jeune, on a l'impression que les choses vont rester comme elles sont. On ne se rend pas compte qu'on est à l'intérieur de quelque chose qui va se transformer et bouger en très peu de temps. Que les gens changent, passent d'un bord politique à un autre en 5 ans. Enfin, et donc, je prenais un peu pour parole d'évangile tout ce que mes profs aux Beaux-Arts me disaient. Et puis après, quand on sort de tout ça, avec du recul, on se dit, ouais. Voilà, on était vraiment dans cette mode d'art conceptuel. À l'époque, c'était la mode de l'idiotie, du détournement, des choses
mais d'ailleurs, quand vous
assez
êtes,
grotesques.
Quand vous avez, on va dire, surgi au Grand Journal, c'était quand même la performance... plutôt qui devait plaire à vos profs des Beaux-Arts.
Bah, en fait...
Ils devaient trouver ça situationniste.
Eux, ils ont halluciné que je travaillais à la télé après 5 ans d'études aux Beaux-Arts. Pour eux, c'était comme leur dire...
voilà,
j'ai rien écouté pendant 5 ans. mais effectivement, c'est drôle comme les performances de Marina Abramovic ou Sophie Kahl, etc. Toutes ces femmes qui travaillaient avec le corps, ce qu'elles étaient elles-mêmes.
Ouais.
Même la façon qu'avait Louise Bourgeois de parler de son travail, etc. C'était des actrices aussi, ces femmes. Donc c'était mes premières références de jeu, finalement.
Oui, d'ailleurs, votre vrai prénom, c'est Ariane Louise Bourgoin. Et en enlevant Ariane, vous faites un hommage à Louise Bourgeois.
Oui, c'est ça. Enfin, j'ai carrément choisi de m'appeler Louise. C'est pas mon deuxième prénom.
Ah, je croyais, pardon.
Non, pas du tout. Mais on m'a demandé de changer de prénom parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Ariane Massenet sur le plateau du Grand Journal à l'époque. Et il ne pouvait pas y avoir deux Ariane. Et donc, j'ai choisi Louise la veille de l'émission. Et c'était un hommage à Louise Bourgeois, qui est une des plus grandes artistes du XXe siècle. Mais aussi, c'était une manière de dire, bah, moi, je ne serai jamais une artiste, je ne suis pas une artiste. Donc, c'était comme choisir de s'appeler Pablo Picasso, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est drôle.
Ouais.
C'est juste un petit décalage. Et qu'est-ce qui vous plaît tant chez Louise Bourgeois, du coup ?
Autant son travail, extrêmement novateur, moderne, que la façon qu'elle avait d'en parler. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si elle était un peu psychotique, un peu insolente, un peu naïve, on ne savait pas bien. Enfin, je ne sais pas, elle faisait des accumulations de pénis décalotés en expliquant que ce sont des petites fillettes avec leur écharpe. Enfin, en tout cas, c'est assez fascinant, les documentaires sur Louise Bourgeois. On se dit, ouais. C'est pas possible. Donc sa façon de parler de son travail fait partie du travail.
Vous êtes une grande admiratrice ?
Bon, une grande admiratrice, mais il y a des personnes qui m'ont beaucoup influencée, que j'admire énormément. David Hockney, par exemple, c'est aussi quelqu'un qui travaille à la ligne claire. Et moi, ce que j'admire, c'est les gens qui ont toujours cette même ferveur, cette même passion du travail, cette même envie à 70, 80, 90 ans. Voilà, par exemple, Muriel Robin, avec qui j'ai tourné, elle n'a pas 90 ans, mais elle est plus âgée, et c'est quelqu'un qui a 1000 projets à la seconde, qui est beaucoup plus énergique que moi. Nicole Garcia aussi, par exemple, avec qui j'ai tourné, sont des femmes que j'aimerais leur ressembler en vieillissant, quoi. C'est des femmes qui sont extrêmement moteurs, qui ont une énergie de vie, j'avais envie de dire presque une libido, qui est inattendue par rapport à ce qu'on attend des gens de cet âge.
Ouais, mais ça nous donne de l'espoir. Je confirme, parce que moi j'ai beaucoup de gens qui viennent à mes conférences qui sont très âgés, et je vous promets que c'est dingue. Hein. Il y a des gens qui se mettent en couple à 90 ans, qui commencent une thérapie moi je vois des gens commencer des thérapies à 95 ans. C'est très beau comme message.
Ouais, très
et
beau.
Ça nous donne d'ailleurs de l'impatience par rapport à votre premier film, qui peut-être portera tout ça. Louise Bourgeois. Louise Bourgoin, est-ce que c'est vous qui dessinez votre vie? Ou est-ce que la vie décide pour vous ?
Un peu des deux, comme tout le monde.
C'est drôle. Il y a des gens très volontaires qui ont un plan de vie, qui s'y tiennent, et puis il y a des gens qui se laissent vraiment chahuter par la vie, ballotter quand même.
À chaque fois que je me suis dit « jamais je ferai ci ou ça, jamais il m'arrivera ci ou ça », c'est arrivé. Donc,
Oui. Par exemple ?
Non, je ne peux pas donner d'exemple, c'est trop intime, mais j'ai presque l'impression qu'avoir des certitudes sur certaines choses, ça les convoque. Donc j'ai plutôt envie de me laisser porter.
C'est ça, que de ne pas dessiner trop autoritairement votre avenir. Est-ce que dans votre
plus
chemin...
Non, mais je voulais des enfants. Bon, je les ai eus.
Ouais.
Si j'avais une certitude, c'était ça.
Donc ça n'a pas fait fuir le réel, au contraire.
Non. Ouais.
Dans votre chemin, on connaît beaucoup d'étapes, des films qui ont parfois très bien marché. Est-ce que vous avez connu, dans ce chemin de créativité, donc protéiforme, un moment, on va dire, d'échec un peu douloureux, au moment où le réel résiste? Vous citiez tout à l'heure Lacan, c'est Lacan qui dit le réel, c'est ce contre quoi on se cogne. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes cogné contre le réel de façon douloureuse?
Bah oui, comme tout le monde. Mais je crois que c'est à ce moment-là qu'on devient adulte. Il y a un truc que j'ai réalisé à partir de 30 ans, je crois, c'est qu'il y a des gens qui sont... Alors, je vais peut-être choquer, hein, mais il y a des gens qui sont foncièrement mauvais, il n'y a rien à en tirer, on ne peut pas les changer, et ils sont foncièrement malhonnêtes, méchants, mauvais.
Ouais.
Et ils sont insauvables, en fait.
On veut juste trois noms.
Non, mais je veux dire, ils sont insauvables, il n'y a rien à en tirer, il faut fuir. Mais ça, j'ai mis du temps, pendant longtemps, je me disais, oui, mais c'est parce que, oui, mais en fait, enfin, mais non, en fait, il y a des gens qu'il faut fuir, tout simplement. Et autre chose, oui, je me suis cognée au réel, en fait, à la sortie des Beaux-Arts. Parce que, d'abord, c'est très difficile d'être un artiste contemporain, beaucoup plus, je pense, que de devenir acteur, encore plus même. Et c'est même les artistes contemporains les plus reconnus, ils sont obligés d'enseigner à côté. Et quand je suis sortie de l'école des Beaux-Arts, voilà, j'ai pas eu mon CAPES, j'ai voulu une équivalence au
CAPES de quoi ?
D'art plastique.
Ouais, pour enseigner, donc
être pour prof, enseigner, ouais. Voilà, avoir une sécurité d'emploi, un CDI, pouvoir avoir les vacances pour travailler, être artiste en parallèle, etc. Je l'ai pas eu, donc je me suis cognée au réel. Je l'ai retenté, mais je suis arrivée en retard, ils ont fermé les portes, et, et j'ai pas pu passer l'examen. Je suis arrivée 5 minutes en retard, c'était la grève.
Donc vous l'avez un peu raté deux fois, donc?
Je l'ai raté deux fois.
Mais de différentes manières.
Oui, oui. Je me suis dit que c'était un acte manqué la deuxième fois, et qu'en fait, c'était pas ça que je voulais faire. Mais je me suis aussi cognée au réel parce que j'ai demandé une équivalence aux Beaux-Arts de Paris que j'ai pas eu, aux Arts Déco, je l'ai pas eu, aux Ateliers Saint-Sabin, je l'ai pas eu. Donc je quand même, on m'a bien expliqué que artiste, c'était pas vraiment...
Mais en revanche, le cinéma, ça a très vite marché. Parce qu'il y a
Monaco. On m'accueillait les bras ouverts. Là. On m'a tout de suite proposé des premiers rôles, etc. Mais c'était pas ce qui était prévu. Donc voilà, ça peut-être donner un espoir à certaines personnes qui se disent « Bon, voilà, tout est... je comprends pas, ça c'est ce que je voulais faire. » Mais parfois, on prend un fil, on le déroule, et puis ça nous amène finalement, voilà, ça m'amène à finalement redessiner maintenant tout ce trajet.
Avec quand même cette cohérence, cette continuité du dessin, parce que déjà, il y a plus de 10 ans, il y avait un livre qui était sorti sur tous les nus du musée d'Orsay.
Oui, là je l'ai commenté seulement.
Ouais, mais vous commentiez l'origine du monde de Courbet, et il y avait dans votre commentaire quelque chose d'un peu féministe, comme dans le film d'ailleurs, La pire mère au monde, puisque si je me souviens bien, vous disiez, en fait, c'est pas aussi choquant, c'est en gros ni érotique, ni pornographique, c'est juste qu'on montre enfin un sexe de femme comme on montrerait un sexe d'homme.
Oui, ça c'est vrai qu'adolescente, quand j'étais au lycée en art plastique, je faisais beaucoup de sexe ouvert de femmes avec de la pâte à modeler, des poils de lapin, plein de choses, du papier mâché, etc. Ce que je trouvais très étrange, qu'on ne montre jamais ce sexe de femme ouvert, alors que forcément, un sexe masculin, il est de fait exposé.
Et donc l'origine du monde
Là, c'est drôle, parce que j'ai dîné il y a très peu de temps chez Orlan, qui a fait l'origine de la guerre, avec un sexe masculin en érection, le même cadre.
Elle est venue en parler à ce micro, figurez-vous.
Ah ouais, j'admire énormément cette artiste, qui, elle aussi, a une motivation, une ferveur à l'âge qu'elle a de création qui n'a pas diminué. Donc ce sont des gens qui sont très inspirants. Et que dire d'autre? Non, c'était intéressant, au musée d'Orsay, de commenter toutes ses œuvres. Non, c'est drôle parce que j'ai demandé il y a peu de temps si ça avait été découpé, cette partie, dans un format plus large, ou si c'était volontairement ce cadrage, et c'était volontairement ce cadrage.
Alors, dans le livre La poésie érotique aujourd'hui que j'ai entre les mains, j'ai eu la chance de tomber sur un poème de Jean-Claude Pirotte. Or, j'adore cet écrivain belge, ce poète, il était avocat au barreau de Namur, un grand bourgeois, donc un peu comme le personnage que vous jouez dans le film. Et puis, figurez-vous qu'il a favorisé l'évasion d'un de ses clients, une fois qu'il a été condamné, et il est parti en cavale. Et il n'est jamais revenu, il a abandonné sa vie bourgeoise, même sa famille, il est parti vagabonder en cavale, et du fond de sa cavale, il l'a envoyé à la table ronde, à la maison d'édition à Paris, plein de poèmes, Cavale notamment, et puis plein de livres que j'ai adorés. Et il est un peu oublié, j'avais il y a longtemps écrit un portrait de lui dans l'événement du jeudi qui s'appelait le Clodo du Goncourt, parce qu'il a failli avoir le Goncourt du fond de sa cavale et de son exil.
Excellent. Et qu'est-ce qu'il est devenu alors ?
Il est finalement mort d'alcoolisme. C'était quelqu'un de très, très radical, très trash. Il aurait très bien pu être dans le livre de Thomas Vinot, 76 Clochards Célestes. Et donc, c'est marrant parce que Thomas Vinot et Pierrotte sont dans ce recueil de poésie. Et vous allez voir comme il est beau, comme c'est beau. Et je vais le lire. Oui. C'est quelque chose que vous avez illustré. Mais je vais le lire. Jean-Claude Pierrotte. Écoutez le poète. Avec mon missel, trempé dans le sel, de mes larmes lentes, j'ai prié le ciel de donner à celle que j'aime une fièvre géante. Et c'est advenu, elle a bu la lune un soir de décembre, lorsque je l'ai tenue et ciselée nue de mes mains d'orfèvre en chambre. Jean-Claude Pierrotte, dans l'anthologie de la poésie érotique d'aujourd'hui, avec Louise Bourgoin, vos très beaux dessins, d'un seul trait, continu, comment vous dites ? Une ligne claire,
oui.
Voilà. Pas de... On ne remplit pas les formes, on laisse imaginer, on laisse les choses résonner. Dernière question, avant d'essayer de dégager votre philosophie de la vie, comme ça, cash, sans trop réfléchir, de quoi vous êtes la plus fière ?
Mes enfants. Mes enfants ?
De ce qu'ils sont maintenant ? Ou le fait de les avoir fait.
De ce qu'ils sont, voilà, ils me surprennent tous les jours, ils sont passionnants, ils sont brillants, voilà, je suis fière de mes enfants.
Eh bien écoutez, merci beaucoup pour cette dernière déclaration pleine de générosité. Merci beaucoup Louise Bourgoin de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon. Je vous offre ce livre que j'avais prévu pour vous, L'érotisme de vivre, des poèmes de Alice Mendelssohn qui sont choisis et présentés par Catherine Ringer qui a l'habitude de les lire sur scène. Et pour vous remercier de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon, je vais essayer de dégager ce que l'on a entendu de votre philosophie de la vie. Alors compliqué, je dirais que c'est le moment où Lacan rejoint Matisse avec cette foi en le temps long. C'est ça qui compte, c'est marrant chez vous. On a l'impression que vous voulez que le temps tout entier de la vie peut être un temps de créativité. La joie de vivre de Van Gogh vous a fait pleurer parce que c'est clair que c'est pas la joie et pourtant ça s'appelle la joie de vivre. On sent que vous aimez cette ambiguïté, vous aimez aussi dire les choses sans trop les dire, cet art de la suggestion. Tout ça nous donne vraiment envie, en plus de vous voir au cinéma et de regarder vos dessins, et ben de voir un jour ce premier film que vous avez envie de réaliser et que vous commencez peut-être dessin après dessin à réaliser déjà un petit peu. Merci beaucoup Louise Bourgoin.
Merci.
Cette émission a été préparée par Estelle Gap et Louise Tempéro, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Elle a été réalisée par Alicia Vullo et Antoine Larcher, avec à la technique Julien Dumont.